D'accord. Alors justement, vous achevez votre ouvrage sur un développement, sur les conséquences de la mondialisation, sur les relations professionnelles. Alors quels sont les changements induits par ce contexte de mondialisation sur les régulations du travail? Observe-t-on une convergence des pratiques ou une véritable tendance à la dérégulation ordonnée peut-être par les firmes transnationales, comme on peut l'entendre dans certains discours?
D'accord. Alors, donc je pense qu'il faut peut-être mettre à mal l'idée d'un rouleau compresseur néolibéral qui écraserait tout sur son passage, et notamment qui ferait que les relations de travail seraient complètement désarticulées, dérégulées, etc. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les derniers travaux hein, sur le syndicalisme et de ma façon comparative mettent plutôt en évidence un mouvement de revitalisation du syndicalisme dans certains pays. Alors, soyons clairs, ça, on est en situation de germe, hein, éventuellement de renouveau, parce que lorsqu'on regarde sur moyen terme l'évolution du syndicalisme dans les grands pays industrialisés, la tendance de moyen terme, c'est quand même le déclin. Mais depuis quelques années, on observe en France, en Italie, en Allemagne, etc., à tout le moins une stabilisation des effectifs syndicaux, voire même dans certains cas une reprise hein, du taux de syndicalisation. Depuis quelques années en France, on a une stabilisation, voire même, selon certains travaux, une reprise de la syndicalisation. Donc, ça serait extrêmement rapide de dire que mondialisation est égale fin du syndicalisme. Ça serait faux. Alors, j'ajoute sur ce plan-là que ce que montrent les travaux aujourd'hui sur la revitalisation du syndicalisme, encore une fois, on est dans les germes du renouveau, hein, c'est pas bon, c'est que les différents pays utilisent leurs ressources propres. C'est-à-dire que là où, par exemple, comme aux États-Unis, le syndicalisme n'a jamais obtenu de soutien de l'État, hein, comme en France, par exemple, confère ce que j'ai évoqué tout à l'heure à propos de du financement des syndicats, la stratégie qui est mobilisée, c'est une stratégie de reconquête des adhérents. Et donc, on va essayer de viser des publics cibles qui ont échappé pendant très longtemps au syndical, enfin, comment dire, à l'enrôlement syndical, des secteurs, par exemple, où il y a beaucoup d'immigrés, de femmes, etc., pour pouvoir avoir l'accréditation des entreprises dans lesquelles ils sont. Dans les pays beaucoup plus latins, où l'État, en revanche, a une tradition beaucoup plus forte en matière de régulation des relations de travail, eh bien, on va faire pression sur l'État pour obtenir des aides, pour favoriser la reconnaissance d'autres formes d'action syndicale, etc. Hein. Donc, voilà, première chose, la mondialisation, c'est certainement pas la fin du syndicalisme. Alors maintenant, la seconde question qui se pose et que vous évoquez, c'est est-ce qu'on a malgré tout l'invention de nouvelles formes d'action collective, de syndicalisme à un niveau européen, voire mondial. De ce point de vue-là, je pense qu'on peut être relativement pessimiste, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas véritablement de mondialisation des relations professionnelles, et que tout montre que, eh bien, prenez un indicateur très concret, c'est les eurogrèves, hein, c'est-à-dire des grèves qui sont coordonnées entre différents pays, donc ce qui est l'invention d'une forme d'action collective transnationale. Lorsqu'on fait le bilan des eurogrèves, eh bien, ça reste quand même un bilan extrêmement pauvre, hein, c'est-à-dire que les organisations syndicales ont beaucoup de mal à organiser la lutte et les conflits du travail en dehors des frontières nationales. Donc ça, c'est clair au niveau européen, et ça l'est encore plus au niveau mondial. Voilà. Alors, ce qui est vrai, en revanche, c'est qu'on avance peut-être sur d'autres registres de l'action collective, qui n'est pas le registre des conflits du travail proprement dit au niveau mondial, ou au niveau européen à tout le moins, mais c'est la construction d'un espace de relations professionnelles au niveau européen. C'est là-dessus que on enregistre peut-être des avancées un peu plus significatives. Et alors ça passe de différentes manières. Première manière, c'est la mise en chantier de nouvelles structures dans les entreprises à dimension internationale, et je pense au premier chef des comités d'entreprise européens, donc qui aujourd'hui commencent à être une réalité tangible dans différents secteurs et qui permettent à des syndicalistes de pays différents mais appartenant à une même entreprise de se coordonner, d'être présents dans les mêmes instances pour pouvoir porter une même parole et de même revendication. Mais surtout, je crois que c'est plutôt ce qui s'est joué autour de l'Europe sociale qui a permis d'avancer sur le sujet, notamment ce qu'on appelle le dialogue social européen, hein. Là, il y a eu quelques étapes fortes dans notre histoire sociale récente qui méritent d'être évoquées. La première, peut-être, elle est déjà lointaine, mais c'était un moment important, c'était l'acte unique de 86, qui reconnaissait aux partenaires sociaux, c'est-à-dire aux représentants des acteurs, aux représentants, pardon, des employeurs et des salariés, la légitimité à participer au dialogue social au niveau européen. Donc ça, c'était un moment important. Ensuite, on a eu toute une série, je ne vais pas rentrer dans le détail de la construction européenne, mais la charte communautaire de 89 a été importante parce que on esquissait un début de modèle social européen du point de vue des droits des travailleurs. Et puis c'est surtout depuis 91 que les choses ont changé, puisque à partir de 91, ont été jetées les bases d'un système de relations professionnelles européen et avec possibilité d'ouvrir ce qu'on appelle un dialogue social interprofessionnel qui met donc au niveau européen les acteurs des relations professionnelles CES, UNICE, CEP, c'est-à-dire les représentants des salariés et des employeurs en capacité de négocier entre eux pour pouvoir produire des accords. Et il y a eu quelques accords qui ont été produits dans ce cadre-là, les accords sur les congés parentaux, sur le temps partiel, sur le contrat de travail, etc. quoi. Alors, il y a aussi dans différents secteurs des accords qui existent, mais voyez que ce qui apparaît aujourd'hui, c'est que l'Europe sociale, donc en tout cas l'Europe des relations professionnelles, est bien, 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 bien en retard toujours sur l'Europe économique. Hein. Et donc, ce qui est clair, c'est que, si je résume l'état de la situation actuelle, c'est que la mondialisation n'a pas mis fin à l'action syndicale et qu'on est peut-être dans une phase de réinvention et que, par ailleurs, l'Europe sociale et l'espace dans lequel se construisent aujourd'hui les germes d'un nouveau système de relations professionnelles qui serait un système de relations professionnelles transnationales. Mais la réalité des avancées, elle n'est pas vraiment à la hauteur des espérances qui ont été nourries par toute une série d'acteurs à partir des années 80. Quoi.